Chapitre 37. Anna Ruben. 23 décembre 2004. Elle prépare du thé au jasmin pour Agnès. Elle a acheté des Mont Blanc au marron, son dessert préféré. Pierre, Anna et Agnès sont revenus de Los Angeles pour les fêtes de fin d'année. Demain, Noël oblige, ils feront un aller-retour à Guignon pour réveillonner avec Colette. Agnès sonne et entre. « Maman ?» À chaque fois qu'Anna entend la voix de sa fille, elle frissonne. Elle va dans le corridor pour l'accueillir. Elle ne l'a pas vue depuis mai dernier, un an qu'ils se sont installés en Amérique. Elle serre sa grande fille dans ses bras. Elle lui arrive sous le menton. « Dis donc, elle est grande ta fille ?» Elle tient de son père. Réponse immuable depuis des années. Au début, Anna a eu du mal avec la tendresse. À chaque câlin, elle avait le sentiment de voler l'amour de sa fille à une autre. Elle avait presque peur d'Agnès. L'affection a fini par l'imprégner avec les années, surtout depuis qu'elle est grand-mère. Depuis la naissance d'Anna, un mur est tombé. Elle se sent légitimée dans son rôle de parent. Anna trouve Agnès fatiguée. Elle a les traits tirés. C'est rien, c'est le décalage horaire. Anna doute qu'elle soit bien aux États-Unis. Anna se jette dans les bras de sa grand-mère. « Mamina !» Une contraction de mamie et Anna que l'enfant a inventée. La prunelle de ses yeux, c'est ainsi qu'elle appelle sa petite fille, qui a exactement le même regard que Jean. Anna a 9 ans. C'est l'âge qu'avait Agnès en 1981, quand Anna avait aperçu Blanche sur le trottoir d'en face, rue des Chartreux. Elle n'y est jamais retournée depuis. Blanche était accompagnée de l'homme fou. Petit, sec, austère, le visage marqué par le temps, buriné comme celui des ouvriers qui travaillent à l'extérieur. Le contraire de Blanche, qui était toujours d'une grande beauté. Comment était-elle parvenue à conserver ce côté solaire qui la caractérisait, alors que son quotidien était un enfer? C'était un mystère pour Anna. Ce jour-là, elle avait pensé que ce sale type avait presque été une bénédiction pour elle, Anna. S'il n'avait pas existé, Jean et Blanche auraient sans doute fini leur jour ensemble. C'est lui qui les avait empêchés de se rencontrer vraiment. Anna avait eu honte de cette pensée, une honte poisseuse qui l'avait poursuivie longtemps. En réalisant qu'il s'agissait forcément du père de Blanche et qu'il fallait avancer sans les regarder, par peur du danger, elle a serré la main d'Agnès un peu plus fort que d'habitude et pressé le pas. Dans la panique, elle a pensé que Blanche allait crier « Rendez-moi ma fille !» Cette crainte l'a traversée un millième de seconde. Elle a senti son regard sur elle et n'a pas levé les yeux. Anna savait qu'un jour cette rencontre se produirait. Où et quand, elle n'en avait aucune idée, ce serait le hasard qui déciderait. Ils habitaient la même ville, une ville de 500 000 habitants, mais la même ville quand même. Pendant des années, Anna avait redouté que Blanche revienne lui réclamer Agnès. Elle en faisait des cauchemars, toujours le même. Elle se rendait dans la chambre de sa fille qui n'était plus dans son lit, enlevée par sa mère, la vraie. Des années après, quand Agnès avait débarqué enceinte chez Anna, arborant fièrement son joli ventre rond pour faire une surprise à sa mère, celle-ci avait failli lui avouer la vérité. Il n'y a aucune photo de moi enceinte dans les albums et les boîtes en carton du salon parce que je ne t'ai pas portée. Et puis elle s'était souvenue de ce que lui avait recommandé Blanche. Ne dites jamais rien, Anna. Si mon géniteur apprenait son existence, il pourrait lui faire du mal. Il est vraiment fou. Jamais Anna n'oublierait l'angoisse qui l'avait habitée, puis hantée entre le soir où elle avait rencontré Blanche pour la première fois et le coup de téléphone du 20 octobre. Elle allait devenir la mère de l'enfant d'une inconnue. Cela l'avait ramenée à sa propre histoire, les Gravoins qui l'avaient recueillie, aimée comme leur propre fille. Grâce à eux, non seulement elle avait eu la vie sauve, mais une enfance heureuse et privilégiée. Sa grand-mère adorée qui lui chantait insensiblement et n'avait de cesse de lui répéter « N'aie peur de rien, n'en fais qu'à ta tête ». La nuit de la naissance d'Agnès, elle avait retiré les gourmettes avec ses deux prénoms. En devenant mère, Elle quittait son histoire pour en écrire une nouvelle. Ce soir du 21 juin, elle était rentrée dans l'appartement qu'elle partageait avec Jean depuis quelques mois. Il était arrivé dans l'après-midi même de Rome, où il avait joué au Grand Auditorium. Il était revenu fatigué, mais heureux. Et le soir, entre la poire et le fromage, Anna lui avait dit « La jeune femme avec qui tu as passé une nuit après le cabaret est enceinte de 5 mois. Elle ne peut pas garder l'enfant parce que sa vie privée est très compliquée. Elle vit sous la coupe d'un homme dangereux. C'est nous qui allons élever l'enfant. Je suis enceinte de toi sans l'être. C'est une autre qui porte notre enfant. » Elle avait prononcé ces mots d'une traite comme une tirade de théâtre de boulevard apprise par cœur. Jean avait juste été capable de murmurer son prénom. Blanche. Il se souvenait de son prénom. Ce n'était donc pas une aventure d'un soir. On ne se souvient pas du prénom de nos aventures. Le lendemain, Jean l'avait interrogée. « Où l'as-tu vue ? Qu'a-t-elle dit exactement ? Où va-t-elle accoucher ? Est-ce qu'elle va bien ? Allait-elle bien ? Non, puisqu'elle devait accoucher sous le manteau et abandonner son enfant. Un enfant qu'il lui avait fait sans prendre la moindre précaution pour la protéger. Anna avait gambergé. Où trouver un médecin ou une sage-femme qui accepterait l'inacceptable ? Comment demander, même à des intimes, d'aider une femme à accoucher sous X sans passer par l'hôpital ? C'est ainsi que Colette était apparue comme la seule solution pour Jean, comme lorsqu'ils étaient enfants. Après tout, sa sœur s'occupait des brebis, et quand l'agneau se présentait mal, leur père disait « On a la ch'tite ». Anna s'était écriée « Mais une femme n'est pas un animal, mon pauvre ami ». C'était la première fois qu'elle élevait la voix, prise d'une colère sourde. « Mon pauvre ami ». Pour la première fois, elle avait douté de son amour pour lui. Elle lui en avait voulu de sa trahison. Elle, dans le tourbillon d'une tournée qu'elle n'osait espérer, et lui pendant ce temps dans les bras d'une autre. Combien de fois la tromperait-il encore ? Comment son beau mari pouvait-il faire preuve d'une telle immaturité ? Avoir une idée aussi absurde ? Demander à sa sœur cordonnière de pratiquer un accouchement ? Était-il à ce point lunaire ? Il planait toujours, ne vivait pas sur la même planète que les autres. Pourtant, il ne planait pas quand il avait fait un enfant à une inconnue. Et Jean lui avait raconté. Blanche n'était pas une inconnue. Elle avait été proche de Colette. Elle s'était perdue de vue, mais se connaissait depuis l'école. Évidemment, Colette saurait faire les bons gestes, et à la moindre complication, elle appellerait le docteur Laborie, son ami. À partir du 1er octobre, Anna avait annulé tous ses déplacements, prétendant avoir besoin de repos. Elle dirait ensuite qu'elle s'était arrêtée pour la fin de sa grossesse. Après l'épreuve qui les attendait, mentir ne serait rien. Tandis que Jean continuait à voyager pour donner des concerts, elle était restée près du téléphone. Et si Blanche n'appelait pas ? Si elle avait fait une fausse couche ? Ou trouvé une autre solution ? Si elle avait changé d'avis ? Ou pire, tout avoué à son père ? Et si son père avait découvert la grossesse et l'avait tuée ? Et si elle avait rencontré quelqu'un d'autre ? Et si elle avait fini par fuir ? Et si, et si, et si ? Anna s'était sentie seule, très seule, mais pas aussi seule que Blanche, qui devait dissimuler sa grossesse. N'était-ce pas l'apanage des femmes d'être seule ? Jamais Anna n'en avait voulu à Blanche. Jamais. Anna avait sincèrement aimé Blanche. Le thé embaume le salon. Après la mort de Jean, Anna a gardé leur appartement, les photographies au mur, la chambre d'Agnès, le piano. Jamais elle ne se serait séparée du piano de Jean. La petite Anna s'y installe pour montrer à sa mamina les progrès qu'elle a faits. Agnès règle la hauteur du tabouret et rejoint sa mère pour savourer son dessert en écoutant sa fille jouer la symphonie numéro 21 de Mozart. À constater sa progression depuis le printemps dernier, à regarder ses petits doigts effleurer le clavier avec une dextérité qui rappelle celle de Jean, Anna sait que sa petite fille sera professionnelle si elle continue à travailler d'arrache-pied. Elle possède déjà le niveau d'une future concertiste. Les musiciens Anna les connaît, les fréquente depuis qu'elle est très jeune, grâce à Éléonore. Comme elle a aimé accompagner Jean dans le monde entier, jouer, sublimer une sonate avec lui. L'odeur poussiéreuse des salles, la communion sur scène, les nuits d'hôtel, les avions, les trains. Vénérer certains chefs d'orchestre, les retrouver comme on retrouve Dieu ou la chance, en redouter d'autres, colériques et odieux. La musique ensemble. La joie immense que procure une partition sue sur le bout des doigts, mais qu'on a le sentiment de découvrir à chaque fois. La résonance intérieure qui fait vibrer la chair. Posséder le don de la musique, c'est posséder une partie du divin. Et Jean possédait le ciel. Le matin, lui travaillait son piano, elle son violon dans la pièce d'à côté. Parfois, elle s'arrêtait de jouer pour l'écouter. Agnès a toujours rejeté l'idée et l'envie d'être musicienne. « Parce que vous n'étiez jamais là », lui a-t-elle reproché un jour. « Pour moi, la musique, c'est l'absence. » Cette phrase l'a désolée, lui a donné l'impression d'avoir trahi une promesse faite à Blanche. Mais Anna doit l'admettre, elle a toujours préféré Jean au reste du monde. Lorsqu'il l'a quittée, à l'âge de 37 ans, on ne meurt pas à 37 ans. Elle avait pensé ne jamais s'en remettre. Elle ne s'en était jamais remise. Il avait fait d'elle une veuve de 45 ans, une femme désespérée. Elle avait pris ce signe pour une punition divine d'avoir trop aimé son mari au détriment des autres, dont sa fille unique. Agnès préférait découper des images pour les assembler sur des cahiers, écrire des histoires, s'enregistrer et plus tard filmer avec son caméscope. Est-ce parce qu'Agnès porte un secret qu'elle ignore, qu'elle est une conteuse hors pair? À travers ses scénarios, cherche-t-elle une réponse qui lui manquerait inconsciemment? Demain sera le dernier réveillon. Anna ne dira rien à Agnès avant qu'elle reparte. Elle ne veut pas gâcher la fête et la joie des retrouvailles. Elle lui en parlera plus tard. La fera revenir des États-Unis quand elle sentira que c'est la fin. La mort ne lui fait pas peur. Elle va retrouver Jean et protégera Anna et les siens. Elle prête aux morts une fonction d'ange gardien. Son cancer s'est généralisé. Il est trop tard pour envisager un traitement. Un ami oncologue l'aidera à partir dignement. Il le lui a promis. Pour l'instant, elle calme ses douleurs dorsales aiguës à coups de pilules d'opium. Une véritable junkie, pense-t-elle. Elle continue à travailler son violon tous les jours. Cela la maintient dans le plaisir de faire de la musique. Il lui reste entre 6 et 9 mois, c'est difficile à dire, lui a-t-on expliqué. Elle espère revoir le printemps. Anna prend son violon et accompagne Anna. La symphonie numéro 21 est l'une de ses préférées. Agnès sourit. Elle les prend en photo avec son téléphone. Maintenant, on fait des photos avec les téléphones. Le lendemain, elle se retrouve à la gare de Lyon-Part-Dieu. Pierre prendra un train plus tard, il a rendez-vous avec son agent français qui veut lui présenter un metteur en scène important. Anna n'a jamais su trop quoi penser de Pierre. Il est drôle et charmant, mais elle se demande si cela suffit à faire le bonheur d'Agnès. Avec les années, Anna la trouve de plus en plus soucieuse. Elle cherche à battre des records, mais pas pour elle, pour son mari. Dans le train, Anna reste près d'elle. Agnès s'isole, 3 rangées plus loin. Elle écrit son prochain scénario. Louis vient les chercher à la gare du Creusot. Agnès, Pierre et Anna dormiront à l'hôtel du centre, et Anna chez Colette. Elle l'a prévenue par téléphone. « Exceptionnellement, j'aimerais dormir chez toi cette année. » À Colette, Anna dira tout. Elle sait qu'elle peut lui faire confiance, qu'elle ne parle jamais, qu'elle écoute sans juger. Le déjeuner est joyeux. Colette est heureuse de les retrouver et ferme la cordonnerie toute la journée du 24. Les chaussures et les clés peuvent attendre. Après le déjeuner, Agnès et Anna vont faire une sieste en attendant Pierre. Et Anna rentre avec Colette. Elle se retrouve dans sa cuisine exiguë, se font du thé. Colette lui demande de l'excuser, elle n'a pas du très bon thé. Anna observe les portraits des différents footballeurs et entraîneurs accrochés au mur. Un bruit de pas. Anna sursaute. Au début, elle croit voir un fantôme, pense que c'est l'effet des médicaments qu'elle avale par plaquettes. Blanche, dans l'embrasure de la porte, dans une robe violet et rouge. À part les cheveux, on dirait Colette en couleur. Je vis ici depuis 4 ans. Je me suis sauvée quand j'ai su qu'il avait battu ma mère à mort. Je l'ai dénoncé. Je croyais qu'il était en prison, mais on l'a relâché. Il doit me chercher partout. Blanche, c'est vous? Comme je suis heureuse de vous voir. Vous avez eu le courage de partir. Blanche et Anna s'étreignent un long moment sous le regard de Colette, qui ne dit pas un mot. Anna Ruben s'éteint le 13 juillet 2005 à l'hôpital Pompidou, entourée d'Agnès et de Colette. Anna aura eu le droit de venir l'embrasser la veille. Blanche fera déposer une plaque sur sa tombe. Anna, que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. Pour les obsèques, on jouera la fantaisie pour violon et piano de Franz Schubert. Un morceau qu'Anna et Jean adoraient jouer ensemble et qui fait partie d'un album qu'ils avaient enregistré en 1982 pour Deutsche Grammophon. Sur la pochette du disque, il pose fièrement à contre-jour dans un studio, elle son violon au creux du cou, lui derrière son piano. Un jour, Agnès avait observé le vinyle avec Colette dans le magasin de Madame Bedin, et elle lui avait dit « C'est fou comme je ne ressemble pas à mes parents. » Ce à quoi Colette avait répondu avec humour « Moi non plus, Dieu merci. » Blanche rejoindra Jean, Anna et Colette au cimetière de la Guillotière à Lyon le 3 février 2011 sous le patronyme de Blanche Roman. Ses chaussures bleues seront déposées sur la stèle.